Il est 11h sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de l'émission des correspondances de Manos qu'on retrouve François Malabave. Bonjour François.
Oui, bonjour Emeline, bonjour à tous. Une heure pour parler des correspondances de Manos. Et pendant cette heure, plusieurs sujets vont être abordés et plusieurs, évidemment, écrivains seront sur la sellette. Par exemple, un certain Jean Giono avec notre ami Jacques Méni. Nous parlerons de l'année Giono avec les lectures au Paraïs, d'un spectacle avec un certain Denis Podalydès. Arnaud Catherine nous a rejoint aussi et nous verrons que Françoise Sagan écrivait des lettres. Il nous lira une très belle lettre de Françoise Sagan. Sont invités aussi Marie-Christine Aveline et François-Xavier Emery à propos de La Loubière. Et c'est la deuxième saison, en quelque sorte, de leur enquête particulière faite à La Loubière. C'est un camp un peu particulier à Manosque. Et nous verrons avec Marie-Christine et François le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont réalisé. On en est au deuxième épisode de La Loubière. Nous entendrons aussi Olivier Chaudançon pour le programme de la journée. Et puis nous attendons la présidente de la Fondation La Poste, Dominique Blanchecotte, car La Poste soutient les correspondances de Manosque. Premier de nos invités, Arnaud Catherine. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour les correspondances. C'est un rendez-vous régulier qu'on a sur notre antenne avec vous, qui est un des piliers de ce festival. Vous êtes venu nous parler de Sagan en toutes lettres, c'est-à-dire un ouvrage et surtout une opération très particulière sur la correspondance de Françoise Sagan, qui sera présentée demain par son fils Denis Vestoff.
Mmh. Ouais, Denis a écrit un très beau récit sur sa mère, il y a quelques mois chez Stock. Donc on avait d'abord envie d'entendre Denis à ce sujet. Vous savez que les éditions Stock republient de plus en plus l'œuvre de Sagan, dont la majeure partie était assez introuvable en fait. Parce qu'on peut tous trouver Bonjour Tristesse, mais quant aux autres livres, ils étaient assez introuvables. Donc voilà, il y a un travail éditorial assez magnifique. Et puis il y a ce témoignage de Denis, un portrait subjectif de sa mère. Donc on avait envie d'aborder ça. Et puis, il se trouve que moi, je tiens beaucoup à deux lettres de Sagan, parce qu'on ne connaît pas la correspondance Sagan. Hein. Mais il y a deux lettres qui ont été publiées à Lerne. Il y a la fameuse lettre à Sartre, de Sagan à Sartre, qui est une lettre d'admiration très belle. Et puis, il y a une lettre dont on ne sait si c'est autobiographique ou si c'est une nouvelle. Ça s'appelle « Lettre d'adieu ». Donc, on s'était dit voilà, qu'on allait recevoir Denis et puis qu'on allait mettre en lecture ces deux lettres. Et il se trouve que cet été, Denis, qui m'avait dit n'avoir aucune correspondance de sa mère, m'a appelé. Alors le programme était imprimé, hein, tout était prévu. Et Denis m'appelle en me disant, voilà, une amie de ma mère vient de me contacter. Et elle m'a confié une correspondance écrite vers 54, quoi, c'est-à-dire à l'époque où Bonjour Tristesse a été publié. Et il me dit, j'aimerais que tu viennes à la maison, on va les lire ensemble. Et puis peut-être qu'il y a quelques lettres qu'on va pouvoir lire à Manosque du coup. Donc voilà, ce qu'on va entendre demain, ce sont des lettres totalement inédites qui ne sont pas publiées et que Denis lui-même vient juste de découvrir.
Avant de vous écouter nous lire en exclusivité une de ces lettres, Arnaud, qu'est-ce que ça apporte la lecture de ces lettres? Et d'abord, est-ce que son écriture était belle? Vous savez qu'on est à Manosque et Giono aimait écrire beau.
Alors, il y a des lettres qui sont tapées à la machine.
Donc là, il n'y a pas de problème de typographie, voilà. D'écriture en tout cas.
Sinon, Denis en est tout à fait conscient, il est le premier à le dire. Son écriture est très très difficile à déchiffrer.
s'en serait douté.
Et avec lui, on s'est amusé à Paris à essayer à spéculer sur certains termes, sur certains mots. Non, elle est assez difficile à déchiffrer. Après, ces lettres sont très belles, sont des lettres très intimes, hein, parce que voilà, Véronique et elle, c'était deux amies, elles sont toutes jeunes, c'était la bande de Florence Malraux, Bernard Franck et tout. Donc, il faut imaginer que ce sont de jeunes gens. Sagan est en plein succès, c'est une déferlante médiatique, elle voyage beaucoup, elle va aux États-Unis, partout. Elle est pourchassée par les journalistes, bon. Et elle a la belle vie. Elle a la belle vie. Et dans ces lettres, on retrouve, en fait, à mon sens, qui en fait la grande beauté, l'esprit Sagan. Si on était dans un pays anglo-saxon, on dirait witty. Voilà. Y a beaucoup, c'est très subtil, c'est très malicieux, c'est assez drôle. Et c'est le ton, hein, ce ton sautillant et faussement désinvolte qu'on aimait bien chez Sagan. Et il y a ça dans ses lettres, qui sont des lettres, voilà, qui sont pas des lettres littéraires, qui sont des lettres de l'intimité, du quotidien.
Vous n'êtes pas venu les mains vides, Arnaud. Vous avez avec vous une lettre et vous nous faites saliver en parlant de cette lettre de Sagan.
Alors avant de la lire, je vous précise juste que Véronique et Sagan avaient pour habitude de s'appeler Plic et Ploc. Voilà, c'est un truc d'amis.
Qui était Plic, qui était Ploc?
Alors Sagan était Plic, Véronique était Ploc. Et j'explique juste une allusion dans cette lettre. Peut-être vous souvenez-vous, à cette époque-là, dans les années 50, il y avait une chanteuse qui s'appelait Annabelle. La femme de Dubuffet. Et Annabelle a chanté des chansons de Sagan, hein, des chansons que Gréco aussi ont chanté, Les Jours Perdus, etc. Et là, Sagan part avec Annabelle en vacances aux Canaries. Et elle écrit à Véronique, son amie. Chère Véronique, merci pour ta lettre qui m'a touchée. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi malheureuse que tous ces gens veulent le dire. Seulement, on dit toujours ça des gens qui vous échappent, par quelque côté, préférant leur malheur à sa propre déception. Je ne suis pas malheureuse du tout, hein, et ma naturelle gaieté avec toi n'est pas le prix d'un terrible effort. Sauf ici où je m'emmerde prodigieusement, comme j'ai déjà eu la joie de te le télégraphier. Il fallait s'en douter, Annabelle est charmante avec trois personnes et deux bouteilles, mais ici, ce tête-à-tête en toute sobriété est réellement terrible de bêtises. Heureusement, il y a un pédéraste de 50 ans, charmant, nommé Magnus, fort drôle et intelligent. Mais elle ne nous laisse pas parler. J'ai jamais vu quelqu'un qui ait autant de renseignements qu'elle. Tous les matins, j'ai droit pendant mon petit déjeuner au récit de la vie détaillée d'un acteur ou de ce qu'elle a dit à un tel qui disait qu'elle chantait faux, etc. Je suis exactement excédé, à ma propre surprise d'ailleurs. Mais comme elle le dit elle-même, c'est notre premier voyage seul. Au fond, on n'avait jamais pu se parler, même à Saint-Tropez. Bref, je m'ennuie à mourir. Ça m'empêche presque de travailler. Quoi qu'il y ait 15 pages de ce fichu roman toute prête. Ma seule consolation, c'est toi et l'Aston que je vais avoir. Il fait beau, remarque, hein ? Mais de ce fait, on va faire du nudisme dans les dunes avec Magnus. Moi, j'y peux rien, ça m'emmerde d'être nu dans une dune avec Annabelle et Magnus, nus dans des dunes voisines. Je trouve ça absurde. Je me demande ce que je fous là. Ah si, je lis Rousseau. C'est très, très amusant. Il y a un moment où l'on comprend quel faucheton c'était, et ça devient tordant. Mais tu avoueras qu'elle est aux Canaries pour les Rousseau. Faut pas être con, comme dit le soldat Queneau. On rentre le 18, écris-moi, Hôtel Phoenix, ça devrait suffire. Je t'embrasse tendrement. Plic.
Une lettre à Ploc, donc, si voilà. J'ai bien compris. C'est croustillant.
Voilà.
C'est croustillant.
C'est le ton Sagan.
Oui, et puis on a des profils qu'on voit bien derrière Annabelle Buffet, Queneau, etc. Il y a beaucoup de lettres dans ce genre, Arnaud, que vous avez exhumé.
Oui, et vous entendrez demain à 15h, il y a une lettre très touchante. Vous savez que, enfin non, vous ne savez pas, je vous le dis, cette Véronique était dans la voiture quand il y a eu ce fameux accident, hein, qui a laissé Sagan alité pendant des mois. Donc les deux ont été blessés, mais elles n'étaient pas dans le même hôpital. Et elles s'écrivaient. Et demain, vous entendrez une lettre que Sagan écrit à Véronique, elle est sur son lit de douleur. Et elle s'interroge sur est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de cette traversée de la douleur ?
À suivre avec Denis Vestoff, il sera demain à Manosque pour parler de Sagan en toutes lettres. C'est à 15h, les lettres seront lues par Blanche Van Nift, qui est comédienne. La rencontre est animée par Pascal Jourdana et c'est à la place de l'Hôtel de Ville à 15h dans le cadre des correspondances. Merci encore Arnaud Catherine. Et
merci
puis,
à vous.
Bonne correspondance, on va se croiser évidemment pendant ces 4-5 jours sur Manosque. Je vous propose d'écouter bien tout simplement le programme du jour par notre ami Olivier Chaudançon. Vous savez que le directeur des correspondances enregistre tous les jours pour Fréquence Mistral le programme du jour. Il est relativement court, mais c'est un programme, comme d'habitude, de grande qualité. Merci Arnaud, à bientôt.
À bientôt.
Olivier Chaudançon, les correspondances ont démarré. On est déjà le deuxième jour. Oui, avec un programme qui démarre à 11h, nos traditionnels apéros littéraires, et nous recevrons Sylvain Prudhomme et Moshe Sakal à cette occasion. Et puis, ça va être un rituel pendant ces correspondances, après le déjeuner à 15h, sieste acoustique et littéraire animée par un trio, Bastien Lallemand, J.P. Nataf, Albin de la Simone, qui chaque jour recevront des écrivains invités du festival. Donc le plateau est en partie une surprise, et chaque jour on découvrira un nouveau plateau pour écouter, dans la pénombre, allongé, de la musique en acoustique et des textes lus. Pour le reste, à 16h30, on découvrira Sabri Luata, un ouvrage absolument passionnant. Ça s'appelle Les Sauvages. C'est d'ailleurs une série plus qu'un ouvrage. Il y a déjà 3 tomes qui ont été publiés. C'est monté comme une série américaine. C'est palpitant. C'est vraiment une fiction ultra contemporaine et que j'invite les festivaliers à découvrir. À 18h, une grande rencontre, Mathias Sénard, Juan Gabriel Vasquez, colombien, tous deux habitent Barcelone et ils ont des choses à se dire, notamment pour cette raison-là, mais pas que. Nous recevrons aussi une Anglaise à la même heure, à 18h, Posy Simons, qui est auteur de romans graphiques pour une lecture-projection dans la petite salle du théâtre Jean le Bleu. Et puis la soirée, la grande soirée, où là ce sera l'immense comédien André Marcon qui viendra lire La correspondance de Rimbaud. C'est à 21h au théâtre Jean le Bleu. Et pour achever ce programme, à 22h30, Dominica pour un concert littéraire où il mêlera la littérature qu'il aime et son propre répertoire.
Retour en plateau en direct des correspondances de Manos. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Aveline, qu'on connaît bien pour son action à Éclat de Lyre. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Et le photographe François-Xavier Emery, qu'on connaît bien aussi pour son travail dans la photographie et notamment aux nuits photographiques de Pierre Vert. Bonjour François.
Bonjour François.
Nous allons parler avec vous de la saison 2, entre guillemets, saison de La Loubière. Et pour commencer, Marie-Christine, c'est un travail que vous avez fourni à plusieurs, à tous les deux. Nous rappelez ce qu'est La Loubière à Manosque.
Oui, alors La Loubière est un des quartiers de Manosque. C'est un quartier dans lequel vivent beaucoup de familles gitanes, certaines depuis plusieurs dizaines d'années, hein, plus de 30 ans, je crois. Bon, beaucoup de ces familles, petit à petit, se sédentarisent. Et comme nous, avec l'association Éclat de Lyre, on accompagne les enfants de ce quartier-là, comme des enfants d'autres quartiers, mais c'est les enfants de ce quartier-là régulièrement, et que donc on voyait au fil des années leur mode de vie évoluer et changer, nous avons eu envie que ces enfants-là puissent garder des traces de ce qu'était leur vie précédente. Donc, on a sollicité les différentes institutions et dans le cadre d'un projet qui s'appelle Identité Parcours Mémoire, nous avons obtenu des financements de l'ACCE, l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, et de la DRAC, qui nous ont permis donc de réaliser 2 ouvrages depuis aujourd'hui. Deux ouvrages sur, voilà, sur la vie des enfants et des familles dans ce quartier-là au moment où ils officialisent quelque part leur sédentarisation, puisque il y a un an, 22 familles se sont installées dans des logements sociaux construits dans le quartier de La Loubière. Donc on aura donc 2 tomes de photos et témoignages. Un premier tome qui est paru il y a 2 ans, et un second qui donc paraît aujourd'hui et qu'on va présenter aujourd'hui, dans lequel on va retrouver des photos et des témoignages d'enfants et des familles.
C'est un dossier social important pour la ville de Manosque parce qu'effectivement c'est une population qui était en souffrance et qui vivait dans des conditions absolument ignobles et insalubres. Donc la construction s'est faite, ils sont installés maintenant dans des maisons en dur, ce qui ne doit pas être très facile pour les gens du voyage.
Non, c'est pas facile. Donc, bien sûr, on va retrouver tous ces éléments-là dans les témoignages. François-Xavier en parlera tout à l'heure puisqu'il a mené beaucoup d'entretiens. Leurs impressions sont mitigées. C'est jamais facile de changer de style de vie. Et même s'ils étaient sédentarisés, ils vivaient quand même encore en caravane. Se retrouver dans des pavillons en dur, c'est pas facile. Je crois qu'en plus, ça s'accompagne, enfin, c'est la concrétisation d'un mode de vie qui évolue et qui peu à peu s'éteint. Se sédentariser pour une population nomade, c'est difficile. Donc, ils expriment ça très bien dans les témoignages. Ils ont un petit peu l'impression de perdre leur âme. Et puis, ça se concrétise aussi par des éléments tout simples. Ils ont du mal à dormir dans les chambres. Ils sont obligés d'ouvrir les fenêtres, voire dormir dans les caravanes qu'ils ont gardées, qui sont dans les enclos des maisons. S'ajoute à ça un certain nombre d'autres problèmes. C'est qu'entre le démarrage du projet, la construction de ces pavillons et l'achèvement de la construction, plusieurs années se sont écoulées. Donc les familles se sont agrandies, des enfants se sont mariés, ont donc fondé de nouveaux foyers. Et en fait, il n'y a pas suffisamment de pavillons et de terrains familiaux pour les loger tous. Donc on se heurte à une réelle difficulté, à savoir que voilà, un certain nombre d'entre eux ne savent pas très bien où s'installer, puisqu'ils n'ont ni maison, ni terrain familial. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des négociations avec la ville qui a essayé de faire le maximum, et là on se retrouve face à quand même à une réelle difficulté.
C'est un changement de vie radical qui leur est proposé. Les enfants doivent peut-être bien l'accepter, je ne sais pas, mais vous le savez puisque vous les connaissez bien. Par contre, les plus anciens, eux, doivent être un petit peu mal à l'aise, parce que c'est vrai que vivre dans une caravane, vous me disiez hier en préparant cette émission que ne plus entendre la pluie pour quelqu'un qui est habitué à vivre et à dormir dans une caravane, c'est quelque chose de terrible. Ils ont l'air un petit peu coupés par rapport aux éléments.
Oui, tout à fait. Donc ils ont effectivement, ils nous ont bien dit ça, ils n'entendent plus la pluie, ils n'entendent plus les enfants. Quand ils étaient en caravane, on ouvrait la porte de la caravane, ou la porte de la caravane était ouverte, les enfants jouaient tout autour. Là, il y a des enclos, les maisons sont bien fermées, il y a des... Bon, j'avais écrit des grillages, maintenant j'ai écrit plutôt des clôtures. Donc ils se retrouvent, eux, ils ont le sentiment d'être parqués et de beaucoup moins se côtoyer et de plus avoir la même proximité qu'ils avaient auparavant. Alors, bon, il faut relativiser, il y a quand même beaucoup, et en particulier peut-être les jeunes femmes sont quand même ravies d'avoir du confort, d'avoir des sanitaires, d'avoir une cuisine. Ça, c'est indéniable, mais je pense qu'il faudra longtemps pour qu'ils s'habituent vraiment à ce mode de vie. Et les enfants, même si certains sont heureux d'avoir une chambre, un petit bureau, enfin de quoi, d'être mieux installés qu'ils ne l'étaient, regrettent quand même aussi la vie en caravane.
Ça a aussi un impact pour la vie en collectivité. Je me souviens, il y a quelques années, on disait le camp de la Loubière. On ne dit plus maintenant que la Loubière, en ayant gommé ce terme très péjoratif qui était le camp, qui nous relançait vers des sombres souvenirs, notamment les enfermements et l'internement. Il n'en demeure pas moins que dans un camp, eh bien, il y a tout le monde qui se regroupe autour d'un feu de camp, justement, et qu'il y a une vie en collectivité qui, apparemment, aurait disparu à la Loubière.
Ah oui, un peu disparu. Il souhaiterait trouver un endroit justement pour refaire les feux, mais oui, enfin, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais laisser François-Xavier l'expliquer. Je crois qu'ils ont conscience aussi, et nous aussi, l'histoire des feux de la musique. Il y a quelque part un côté un peu folklore qui disparaît aussi. Ça reste dans l'idée, mais... ils n'en font pas vraiment des feux, ils en faisaient quelques-uns même quand ils étaient... Alors, vous avez raison sur le terme de camp, nous on avait pris l'habitude d'utiliser le mot terrain de la Loubière, et maintenant c'est le quartier de la Loubière, voilà, c'est le quartier. Sur ce quartier-là, il y a bien une aire d'accueil pour les passagers, qui pour l'instant n'est pas disponible, mais des solutions vont être trouvées, j'espère. Voilà, les feux, donc c'est sûr que... Petit à petit, ça disparaît. Alors, ils sont en train d'essayer d'inventer quand même quelques-uns, trouver des solutions. Et je crois que là, on a un rôle, nous, associations, ou tous ceux qui essaient d'œuvrer pour la compréhension entre des cultures différentes, pour les aider à trouver des solutions pour que d'une façon ou d'une autre, on puisse quand même perdurer des éléments fondateurs de leur culture. Ils envisagent peut-être de trouver un terrain ailleurs et perpétuer... faire connaître un peu leur style de vie pour ceux qui le souhaitent, feu, musique, etc. Mais ça ne sera pas facile.
À suivre, donc c'est assez délicat, effectivement. François-Xavier, vous avez réalisé pas mal de photos à la Loubière, et puis vous avez récolté aussi des témoignages, notamment vidéo. Il y a de superbes photos dans votre livre qui transpire un petit peu la façon de faire la fête à la Loubière. Il y a des grandes tablées avec des enfants qui jouent, qui courent dans tous les sens. On imagine ça de manière très, très positive. Et pourtant, ça vient un peu en contraste avec ce que vient de dire Marie-Christine.
Oui, non, mais c'est un peu ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. À la fois, ils sont très attachés à cet esprit de groupe. Et à chaque fois qu'il y a une cérémonie, il y a un mariage, il y a un baptême, ils sont là, ils se rassemblent tous et ils font la fête. Et c'est des gens qui ont vraiment le sens de la fête. D'ailleurs, ce soir, j'espère que, puisqu'ils vont venir, ils vont nous démontrer ça. Mais en même temps, voilà, ils sont dans des maisons et pour eux, quand j'essaie de leur demander qu'est-ce qui se passe et tout ça, ils disent, alors on a le confort et tout, mais il nous manque quelque chose. Et quand on essaye de pousser plus loin, c'est qu'il faut qu'ils s'adaptent à cette ville, à cette vie sédentaire, quoi. Il faut qu'ils... Pour eux, il y a quelque chose qu'on leur enlève. La caravane, pour eux, c'est la liberté. C'est ce qu'ils représentent. Même si cette caravane ne bouge pas, ils savent qu'elle est là et que c'est leur possibilité, ça leur permet de pouvoir s'échapper éventuellement.
Elles sont toujours à demeure à la Loubière, quelques caravanes en tout cas.
Oui, alors la conception des lotissements, heureusement, a laissé une place à la caravane, c'est-à-dire qu'on peut garer la caravane. Alors elle est garée comme une espèce de garage qui n'est pas complètement fermé, donc du coup, il n'y a pas toutes les ouvertures, quoi. Tout n'est pas... eux, quand ils sont dans une caravane, ils ont un panorama de 360 degrés, puisqu'il y a des fenêtres un peu partout, là c'est un peu bloqué. Donc pour eux, ils considèrent qu'il y a quelque chose qu'on leur a enlevé, même s'ils ont la possibilité de laisser leur caravane. Et tous n'ont pas gardé la caravane pour des raisons financières, simplement pour pouvoir investir, aménager dans leur nouvelle maison, où c'est magnifique, toutes ces maisons sont vraiment magnifiquement aménagées à leur manière. On y a été hier, on était vraiment surpris de... Ouais. Et c'est aménagé presque comme une caravane.
Et ils ont réussi à s'approprier quand même ces maisons en dur.
Ah oui, non, ça je pense que c'est leur espace et l'intérieur est un endroit sacré qui est toujours entretenu, que ce soit une caravane ou une maison, et on retrouve tout à fait ça donc dans ces maisons. Et ils se sont donc réappropriés. Je pense que Conforama a dû faire une sacrée recette.
Faut pas faire de publicité, hein, François, attention. Non, mais en tout cas, c'est bien qu'ils puissent se sentir bien au moins dans leur maison, au moins, j'allais dire, pratiquement, de manière pratique.
Oui, non, mais
comme l'a dit Marie-Christine tout à l'heure, l'eau courante, c'est très important, l'eau chaude, l'électricité, c'est un luxe qu'ils ont enfin à pouvoir utiliser, quoi. C'est vraiment important. Comment ça se passe avec les enfants? Les enfants sont-ils intégrés, Marie-Christine, à Manosque? Ils sont scolarisés, par exemple?
Oui, 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 bien sûr. Les enfants d'âge d'école maternelle ou élémentaire sont tous scolarisés. En tout cas pour donc ceux qui se sont sédentarisés. Après, au niveau du collège, bon, ils ne sont peut-être pas tous, donc certains sont encore inscrits au cours par correspondance, mais enfin, ils sont de plus en plus scolarisés. C'est d'ailleurs une des raisons qui leur fait dire, et ils le disent dans un des témoignages, que les parents souhaitent vraiment que leurs enfants soient scolarisés et que c'est une des raisons pour lesquelles ils se sédentarisent, parce que la scolarité est bien sûr bien plus facile on est sédentarisé que quand on se déplace et qu'on reste 2 mois dans une ville. Les passagers, donc pendant plusieurs années, là, il n'y a plus de voyageurs qui se sont installés à Manosque puisqu'il y avait des travaux sur l'aire d'accueil. On va voir comment ça se passe quand ils vont revenir. C'est plus difficile pour les voyageurs puisque quand on doit rester effectivement 1 mois, 2 mois, les démarches d'inscription, aller à l'école, bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un mouvement... inéluctable, et maintenant les enfants, oui, sont presque tous scolarisés, sont de plus en plus intégrés. C'est vrai qu'on essaie d'œuvrer, donc avec toute l'équipe avec laquelle je travaille, à faire en sorte qu'il y ait des croisements et que ces enfants-là soient intégrés à toute forme d'activité pour prendre l'exemple d'hier pendant le Festival des Correspondances, hier matin, donc, il y a eu une lecture pour les enfants par un auteur jeunesse qui s'appelle Sébastien Joannès. Donc, il faisait une lecture d'un de ses ouvrages en musique. Donc, nous avons accompagné les enfants des différents quartiers dans lesquels on intervient. Donc, il y avait des enfants de différents quartiers, dont les enfants de la Loubière. Et là, ils sont parmi tous les autres enfants, comme des enfants de notre quartier. Donc, oui, de plus en plus, l'intégration va se faire de plus en plus.
Donc là, il y a des avancées qui sont plutôt positives. Est-ce que la communauté de la Loubière, de manière très, très générale, continue à voyager avec des caravanes et à partir de temps en temps en pèlerinage? Est-ce qu'ils le font toujours?
Oui, ils partent de temps en temps. Bon, il y a un rendez-vous incontournable au mois de mai des Saintes-Marie. Donc là, la plupart y vont. Ils se déplacent pour des réunions, des regroupements familiaux, lors d'événements familiaux. Ils se déplacent, sinon, à ma connaissance, enfin, François Xavier le dira mieux que moi, ils se déplacent quand même de moins en moins.
Hein. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils connaissent encore cet appel de la route que connaissent les gens du voyage, de dire, tiens, j'ai envie de bouger. Est-ce qu'ils y arrivent à l'assouvir?
La souvir, je ne sais pas, non, s'il y a la difficulté du déplacement, de le coût que ça a aussi de se déplacer, de trouver aussi de pouvoir s'installer quelque part. Eux, ils ont besoin d'avoir cette caravane pour pouvoir aller effectivement, comme disait Marie-Christine, à des rendez-vous familiaux, de retrouver leurs parents, leur famille, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me souviens plus ce que je voulais dire, c'est terrible.
Sur les pèlerinages peut-être, François?
Non. Sur les pèlerinages, alors ils vont effectivement, c'est une tradition, hein, pas tous, hein, mais ils vont effectivement, ils se retrouvent, en plus, notamment au Sainte-Marie-de-la-Mer ou à Lourdes, c'est des moments importants pour toute la communauté gitane puisse se retrouver, ça c'est... Ça fait partie de ce qu'ils font. Alors ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est que maintenant ils n'ont plus de caravane, ils ont plutôt des camions qui leur sert pour leur travail quand ils ferraillent, quand ils chinent et tout ça, et en même temps ils l'aménagent pour pouvoir habiter dans ce camion, parce que je vous dis, la caravane, elle a quand même tendance à disparaître. Mais quand on voit par exemple le dessin qu'il y a sur la couverture du livre, c'est un dessin qui a été fait par un enfant, et je leur avais demandé, lors d'un atelier photo, je leur avais demandé de faire un petit dessin pour terminer la journée, en disant faites le dessin de votre maison. Et donc il y a un enfant qui a fait un dessin, enfin, alors tous faisaient dessiner la maison et la caravane. Et notamment, il y a un garçon qui a mis un cœur dans la caravane.
Il y a un gros cœur.
Un gros cœur.
Un gros cœur dans la caravane. Et puis une grande maison qui fait trois fois ou quatre fois la caravane en hauteur, ce qui n'est pas la réalité à la Loubière.
Non, ce qui n'est pas la réalité.
Mais en même temps, c'est peut-être la manière dont ils ressentent cette...
La caravane est devenue plus petite dans leur esprit, mais le cœur, il est toujours là.
Votre ouvrage s'appelle La route à traverser, c'est toujours paru au Bec en l'air. Vous allez participer donc dans le cadre des correspondances à une présentation de ce livre.
C'est ça, ce soir on va faire la présentation de ce livre à 19h place d'Herbès. Nous avons bien sûr invité toutes les familles qui vivent sur le terrain, donc on sait que plusieurs vont venir, ils vont même venir jouer de la musique.
On s'en serait douté.
Voilà.
Les connaissant un peu.
Pépito.
Il y aura Pépito.
Je crois qu'ils sont très heureux qu'un livre comme ça puisse exister. Le premier tome, on leur a déjà distribué un à chaque famille. Là, on va distribuer le second. Je crois que ils sont très heureux de ça. Et même au-delà de ça, il y a des moments très émouvants. Déjà hier, avec François-Xavier, quand on est allé voir. Ils disent bien, et pour nous c'est vrai aussi, que quand on arrive à dépasser les appréhensions, les craintes, les difficultés de communication pour des modes de culture extrêmement différents, qui demeurent très différents même s'ils se sédentarisent, il y a après une émotion et des échanges profonds et vrais qui existent et qui sont une richesse, en tout cas de notre côté c'est vrai, il semblerait que du leur aussi. Quand une dame hier nous a dit en partant, je crois que maintenant on peut presque parler d'amitié entre nous, ça va droit au cœur.
Oui, un beau compliment qui vous est fait là.
Voilà,
oui.
C'était peut-être plus destiné à François-Xavier qu'à nous, mais voilà.
Rendez-vous donc, c'est à quelle heure, Marie-Christine?
C'est à 19h ce soir, place d'Herbès. Je voudrais quand même, parce que donc c'est moi qui parle, mais dire qu'au-delà de moi, il y a toute une équipe qui travaille avec moi. Qui se rend régulièrement sur le terrain, qui fait tout un travail de fond, donc remercier toute l'équipe. et en profiter, enfin je redirai ça ce soir, mais pour remercier François-Xavier qui a vraiment réalisé un travail de grande qualité et puis un travail d'écoute, de patience, de disponibilité, parce que pour arriver à établir des relations de confiance comme celle-là, il fallait toutes ces qualités-là.
Et puis c'est une belle réalisation aussi, ça s'appelle La route à traverser, c'est édité au Bec en l'air, et comme dans la saison 1, il y a un DVD avec des enregistrements, montage et photos de François-Xavier Emery dans cet ouvrage, où il y a de très très belles photos et de très belles les réflexions que vous nous avez fait partager ici même. Tout à l'heure, donc à 19h, place d'Herbès à Manosque. Merci François-Xavier, merci Marie-Christine, à très bientôt. Je vous propose de faire une petite pause musicale, je me tourne vers Emmeline. Notre ami Bastien Lallemand, qui est l'instigateur des siestes littéraires, est un auteur-compositeur de grand talent. Les siestes littéraires, vous savez, ce sont trois musiciens qui proposent de se retrouver autour d'un oreiller et d'un coussin pour tout simplement s'allonger et écouter de la musique. Et quelle musique? Bastien Lallemand, Albin de la Simone et JP Nataf, et qui propose en plus des superbes chansons avec des intermèdes qui sont proposés, sont des intermèdes parlés avec les auteurs qui sont invités pendant les correspondances. Ça se passe dans la petite salle du théâtre Jean Lebleu. Je suis très curieux d'aller faire un tour dans ces siestes littéraires. Il n'y a pas beaucoup de place, il faut en profiter. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous dire que les musiciens des siestes littéraires seront nos invités du plateau de samedi matin, qui s'avère très musical, puisqu'on attendra aussi Frédéric Nefcher-Elian et puis Océane Rosemary. Donc ça va être très très musique et littérature. Et je vous propose d'écouter l'instigateur de ces siestes littéraires, Bastien Lallemand. C'est un extrait de son dernier album, L'Empoisonneuse, un texte sublime.
Avez-vous pensé au poison pour se débarrasser de ce garçon, pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con? Avez-vous donc quelques notions de chimie, là est la question. Car pour une bonne potion, faudrait connaître les proportions. N'est pas empoisonneuse qui veut. Préparerait à 11h pour lui un bon bouillon d'11h qu'il enverra brouter les fleurs par la racine pour son malheur, pour ne pas éveiller de soupçons. Choisissez bien votre poison. Les baies de ce simple buisson font merveille en extrême onction. N'est pas empoisonneuse qui veut. Insinué, trois gouttes suffisent dans son thé pour l'envoyer en jet privé. Et vous serez enfin heureuse. Oui, vous serez enfin heureuse. Thank you.
fouiner. Prenez soin de dissimuler. Plaider la passion et pleurer. L'empoisonneuse est pardonnée. L'empoisonneuse est pardonnée. L'empoisonneuse est pardonnée.
Bastien Lallemand, l'empoisonneuse. L'empoisonneuse est pardonnée. Bastien Lallemand qui anime avec JP Nataf et avec Albin de la Simone les siestes littéraires. C'est à 15h tous les jours pendant les correspondances. Et puis à noter aussi qu'ils auront tous les trois, ils feront la clôture des correspondances, un concert un petit peu exceptionnel. Ce sera vraiment tout à la fin des correspondances. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Notre ami Jacques Ménie nous a rejoint. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
On rappelle brièvement que vous êtes un fidèle de la radio et un habitué, puisqu'on anime depuis déjà quelques temps, quelques années presque, une émission qui s'appelle Jean de Manosque. Ce Jean en question, c'est Jean Giono, bien sûr. Vous êtes un grand spécialiste de Jean Giono. Cette année d'ailleurs, c'est l'année Giono. On peut rappeler à nos auditeurs et aux fans des correspondances, pourquoi une année Giono à Manosque ?
Une année Giono, oui, qui a été voulue par Pascal Antique, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Qui est en charge de la culture à la communauté de communes.
En charge de la culture à la communauté de communes. Ce qui a provoqué cette décision, ce qui a entraîné cette décision, c'est la concomitance de deux anniversaires, les 20 ans du Centre Jean Giono et les 40 ans de la fondation de l'Association des Amis de Jean Giono. Le Centre Jean Giono étant d'ailleurs au départ une émanation de l'association et de la famille Giono. Mais les 40 ans de l'association, qui, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois à ce micro, est une des belles et grandes associations d'amis d'écrivains de France, puisque nous maintenons depuis plusieurs années à un niveau de 600 adhérents constants, des vrais adhérents, je veux dire des adhérents à jour de cotisation et très actifs. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein.
Et c'est une association que vous avez présidée de longues années, Jacques.
J'ai présidé 5 ans et maintenant je l'anime, ce qui revient presque au même.
Vous êtes aussi un personnage important puisque vous êtes cinéaste de votre métier.
Oui.
Et vous avez également l'accès total au fonds de documentation du Paraïs, autrement dit la maison de Jean Giono. Très souvent, vous exhumez des lettres et des documents qui sont magnifiques. Vous connaissez par cœur sa bibliothèque, ou presque par cœur. Il y a toujours encore des petites découvertes. Et dans le cadre des correspondances, cette année, eh bien, les correspondances vous ont ouvert grand les portes, tout simplement pour célébrer Giono.
Bah, il était logique que les correspondances à Manosque, dans le cadre de l'année Giono, mettent plus l'accent que d'habitude hein, sur Giono. Je dois dire que personnellement, j'avais trouvé que depuis plusieurs années, on n'en parlait quasiment plus de Giono pendant les correspondances. C'est-à-dire pas de lecture, de grande lecture, pas de... Alors là, bon, j'ai précipité, parce que c'est un projet que j'avais depuis 3 ans, et malgré la charge qu'a représenté l'année Giono, j'ai précipité la réédition, la nouvelle édition, plutôt qu'une réédition, de la correspondance importante entre André Gide et Jean Giono, en accompagnant cette réédition, donc... d'une lecture dans les jardins du Paraïs, de cette correspondance par deux grands comédiens. Et donc, voilà, les amis de Jean Giono sont maintenant intégrés dans la programmation avec, je crois, de très très beaux moments et une exposition qui est ouverte donc pendant toutes les correspondances pour les visiteurs qui s'inscrivent pour la visite du Paraïs.
C'est peut-être justement l'occasion de faire découvrir cet auteur qui pendant les correspondances n'était pas trop mis en avant et qui pourtant a fortement marqué Manosque. On en parle bien puisque nous le connaissons par cœur ici.
C'est-à-dire que je comprends très bien que l'actualité littéraire, les écrivains vivants, la vie littéraire contemporaine, c'est d'abord ça le cœur des correspondances. Mais je pense que Giono est toujours vivant, est toujours contemporain, et il ne faut pas le considérer comme une gloire patrimoniale. Hein, c'est un écrivain qui parle et qui parle de plus en plus à beaucoup de gens, y compris dans des domaines qui ont été longtemps un peu rejetés dans son œuvre. Je pense par exemple à ses essais des années 30 et à un texte qui a été longtemps considéré comme ringard, poussiéreux, inadéquat, qui est la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, et qui devient aujourd'hui une sorte de bible, par exemple des militants pour la décroissance. Parce que la monétarisation du monde, hein, la production de surplus, il y a une phrase extraordinaire que je relisais l'autre jour dans Les Vraies Richesses, c'est « Et un jour, on vous prendra l'eau des fleuves et on vous la fera payer ». Okay, c'est ce qui s'est passé quand même.
On y est.
Ça, il écrit ça en 1934. Genoux n'est pas patrimonial. Bien sûr, il est mort il y a 42 ans, bien sûr, il est dans la Pléiade, bien sûr, mais d'abord, on trouve toujours des petites choses inconnues de lui, donc il y a une actualité un peu d'écriture, mais il n'est pas patrimonial, et je trouve que, sans que ce soit systématique, c'est bien quand même qu'il y ait des événements marquant dans les correspondances autour de Giono. Bien sûr, il y a les activités du centre qui sont les promenades que le centre organise ou les ouvertures du centre pendant les correspondances, mais qu'il y ait des coups de projecteur de temps en temps dans les correspondances sur un aspect de Giono, qui est un grand épistolier aussi, en tout cas par la masse de lettres qu'il a écrites, c'est bien. Par exemple, je pense que l'édition de la correspondance de Giono avec la famille Gallimard, que je suis en train de préparer pour une édition chez Gallimard, pourra certainement être un événement pour les correspondances. Car Giono, si je fais un calcul, je ne peux pas savoir exactement, hein, mais si je fais un calcul par rapport au nombre de lettres qu'il a reçues dans sa vie et que nous connaissons, on peut penser qu'il a écrit à peu près 80 000 lettres, peut-être plus.
C'est considérable.
Et il disait à Jean Carrière, je n'aime pas trop écrire des lettres.
En plus.
Alors, il faut voir une chose avec cette correspondance. Elle est très diverse, bien sûr. Il y a des écrivains dont la correspondance est une œuvre. Parfois, c'est même ce dont on se souvient le plus ou ce qui reste le plus vivant dans leur œuvre. Je pense à la correspondance de George Sand et la correspondance de Flaubert et la correspondance de Proust. Céline, etc. Bon. Giono, c'est une correspondance beaucoup plus diverse qui ne fait pas œuvre, à part une partie, mais qui n'est pas éditée et qui ne peut pas l'être pour l'instant. C'est une correspondance parfois très, très factuelle, très professionnelle aussi, bien sûr, parfois amicale, mais il y a des correspondances magnifiques, par exemple celle avec Lucien Jacques. On voit vraiment naître un écrivain. On voit vraiment naître l'art de Giono et le génie de Giono commencer à se manifester dans sa correspondance avec Lucien Jacques, qui représente quand même plusieurs centaines de lettres. Et puis, il a eu deux grands correspondants chez les artistes, chez les écrivains, chez les musiciens, chez les cinéastes. Et nous avons des lettres d'Abel Gance, et à Abel Gance, nous avons des lettres de Pagnol, nous avons des lettres de Gide, donc on va en dire un mot, nous avons des lettres de Sandrard, nous avons des lettres de Pollan, d'Aragon, d'Henry Miller, on les rééditera l'année prochaine à l'occasion des rencontres Giono. On a des grands noms, évidemment, dans cette collection de lettres.
Et c'est une vraie richesse, on va dire ça comme ça.
Ah oui, c'est une vraie richesse. Alors, la vraie richesse, c'est quand on arrive à avoir les copies des lettres de Giono, parce qu'évidemment, les lettres de Giono, elles sont dans les fonds des correspondants quand ils ont été bien conservés. Parfois, elles passent en vente.
Il vous arrive qu'on vous prévienne, qu'on vous dise, tiens, là, j'ai retrouvé un paquet, comme tout à l'heure Arnaud Catherine, qui a été prévenu par le fils Sagan,
oui,
des lettres de sa mère.
Ça arrive qu'on nous envoie des lettres de Giono, oui. Mais alors, par exemple, il y a des correspondances entières qui sont passées en vente par les héritiers, bien sûr. Là, on voit bien tout d'un coup, dit, tiens, Raymond Rouleau, le metteur en scène, est décédé il y a quelques années, et tout d'un coup, on a vu passer en vente en Angleterre les lettres de Giono et un scénario de cinéma, un projet de film, en tout cas, de 6 pages que Giono avait écrit pour lui, mais dont on ignorait l'existence. J'avais des pistes, mais on n'avait rien derrière. Voilà.
pour les correspondances de Manosque, en tout cas cette année, vous avez sorti avec l'association des Amis de Jean Giono, vous avez publié un hors-série de la revue Giono, les correspondances 1929-1940, André-Gide Jean Giono. C'est évidemment disponible actuellement dans les librairies à Manosque. Et il est tout chaud d'ailleurs encore. Et pendant les correspondances, donc Jacques, beaucoup de manifestations, beaucoup de visites et un spectacle sublime en clôture des correspondances, pratiquement, Denis Podalydès qui va lire deux nouvelles de Jean Giono.
Oui, alors ça, c'est le projet d'Olivier Chaudançon, hein, avec le Centre Giono. Donc, Podalydès, évidemment, c'est un immense acteur. Et là, il s'attaque donc à deux textes très, très différents, de deux époques très différentes, puisque Geoffroy de Lamaussant, dont Pagnol avait fait un film magnifique d'ailleurs, interprété par Vincent Scotto dans le rôle de Geoffroy, a été écrit en 1930, et que c'est 18 ans plus tard qu'il écrit Faust au village, qui se passe d'ailleurs pas dans... Geoffroy de Lamaussant est inspiré d'une histoire qui est arrivée à un ami de Giono qui habitait à Volx, sur le Dortier. En gros, c'est un paysan vend en viager... à plus jeune que lui, donc forcément, un terrain, et s'oppose à ce que, évidemment, on abatte ces oliviers centenaires, multicentenaires, etc. Donc c'est ce conflit-là. Et quant à Faust au village, qui se passe dans le Trièves, qui se passe nulle part d'ailleurs, c'est une des rares incursions de Giono dans le fantastique, le merveilleux ou le fantastique, c'est à la limite des deux. C'est très, très, très beau. C'est très étrange, c'est très mystérieux, c'est très sombre. Gide, justement, qui l'avait lu, puisque Gide est mort en 51, donc Giono a dû lui donner à lire ou lui lire, même au cours de leur dernière rencontre, peut-être en 1949, moins de deux ans avant la mort de Gide. Et Gide lui aurait dit, ça me fait penser à du Dostoïevski. On sait que Dostoïevski a une importance énorme pour Gide, mais pour Giono aussi. Et c'est pas faux. En gros, c'est un camionneur qui fait des allers-retours et puis qui rencontre toujours un même homme sous la pluie. Et bon, on devine que c'est le diable, quoi. Et il va se laisser emporter, en quelque sorte, on ne sait pas où, à la fin, avec ce diable.
Jacques, vous êtes curieux de voir l'interprétation de Denis Podalydès de ces deux textes?
Ah, bah bien sûr, oui, je suis très curieux, très intéressé, bien sûr.
Parce que là, ce sont les mots qui vont être les vedettes.
Ah, oui, non, mais j'espère qu'il va être magnifique. Oui, il faut qu'il soit magnifique. parce que c'est vrai que quand un acteur de cette dimension, de cette réputation, de cette qualité... s'empare d'un texte de Giono, on attend bien sûr que ce soit magnifique et parfait, mais c'est surtout un haut-parleur extraordinaire pour... Et puis, vous savez, je suis sûr que pour lui aussi, je crois que c'est une découverte, d'après ce que disait Olivier, c'est... Giono est pas... Malheureusement, je dirais, c'est notre travail, ça, quotidien, n'est pas toujours spontanément associé à la grandeur de son œuvre. Son œuvre est grande, son œuvre est immense, c'est une des toutes premières de notre littérature, mais l'image qu'a Giono, et l'image qu'a cette œuvre, avec tous les malentendus qu'il y a eu pendant des décennies autour de l'écrivain, autour de Giono, fait qu'on n'associe pas spontanément dans certains milieux artistiques, intellectuels, même universitaires, Giono aux quatre ou cinq immenses prosateurs du XXe siècle, c'est-à-dire Proust, Aragon, voilà, des gens de cette dimension, Céline, voilà. Et Giono est à ce niveau-là, je dirais au niveau de Claudel pour la poésie.
En tout cas, pour ma part, pendant les correspondances, je peux vous assurer que beaucoup de visiteurs manosquins de quelques jours nous signalent la chance d'avoir Giono. Bastien Lallemand, l'année dernière, qui nous a fait un spectacle magnifique sur des textes de Giono et qu'on a écouté tout à l'heure, Bastien, justement. Jacques Bonafé, que j'ai eu ici même en plateau, qui m'a dit être un fan de Jean Giono et avoir interprété L'homme qui plantait des arbres,
je me souviens,
évidemment. Et beaucoup d'autres artistes et comédiens pour qui venir à Manosque, ça signifie quelque chose.
Venir chez Giono.
Exactement, oui. Exactement.
Non, mais ça c'est évident. Je veux dire. Il y a une association entre Giono et Manosque qui est incontestable. et je dirais même une association entre Giono et le Paraïs, sa maison. Parce que dès 1930, c'est ce que j'explique aux visiteurs, c'est que quand il s'installe en 1930 au Paraïs, il a 35 ans, il est dans l'explosion. Hein. On parlait de l'explosion de la notoriété de François Sagan avec Bonjour Tristesse. Giono Colline, ça a été quasiment le même effet. Hein. Du jour au lendemain, tout le monde s'est dit « Ouh là là, il y en a un là à Manosque ». On croyait même que c'était un subterfuge. Giono, tout le monde pensait que c'était le pseudonyme de quelqu'un qui avait déjà X années de littérature derrière lui. Non, c'était une explosion.
Et c'était le démarrage d'une brillante carrière.
Et comme il s'installe en même temps dans cette maison, et qu'on va venir le voir là, le photographier là, l'interviewer là, le filmer là plus tard, etc., ben, sa maison, c'est devenu son image.
Alors Jacques, faisons le point justement sur ce qu'on peut voir pendant les correspondances, notamment le Paraïs. Les visites du Paraïs, c'est à quelle heure ?
Alors les visites du Paraïs, tous les jours à 10h du matin et à 14h30 jusqu'à dimanche. Dimanche, il n'y en a pas à l'après-midi, puisqu'on va voir Denis Podalydès tous.
Évidemment.
Donc à 10h seulement dimanche. Mais alors attention, inscription obligatoire au bureau des correspondances, place de l'Hôtel de Ville. Parce qu'une maison d'écrivain, ben, c'est une maison. Donc, ce n'est pas un château, sauf chez Georges Sand.
Je peux donner le numéro de téléphone des correspondances, Jacques. 04 92 75 67 83. 04 92 75 67 83. Inscription obligatoire pour visiter le Paraïs.
Oui, parce qu'on ne reçoit pas plus de 8 personnes par groupe. Hein, donc,
et ce sont 8 chanceux qui voilà. Entrent dans l'antre de la littérature gionienne.
Découverte de la maison. En même temps, la maison est habitée en quelque sorte de la présence d'André Gide et de Jean Giono. André Gide qui est venu d'ailleurs dans cette maison du Paraïs, puisque nous exposons leurs lettres, nous exposons les livres dédicacés par Gide à Giono, nous exposons des photographies de leurs rencontres. Et nous prolongeons donc cette réédition de la correspondance importante, je répète, entre Gide et Giono par une lecture à 11h, entrée libre, sans réservation, mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde. 11h samedi dans les jardins du Paraïs. Alors, par deux comédiens qui sont des familiers de la littérature de Giono et de son univers, qui sont dans le rôle en quelque sorte de Gide. C'est une question d'âge aussi. Claude Giraud, qui est un ami de la famille Giono, des amis de Giono,
et qui a été l'inoubliable
de Giono, l'inoubliable Langlois du film Un roi sans divertissement. Et puis, pour lire Giono, un peu d'une autre génération d'acteurs, Éric Chalier, que nous connaissons bien aussi maintenant Manos, puisqu'il a été l'interprète du bout de la route dans la mise en scène de François Ranciac.
Et de Lanceur de graines.
Et de Lanceur de graines. Et de Anne Beaumune pour les rencontres Giono il y a 2 ans. Donc c'est la 4e fois finalement qu'Éric, en 2 ans, va venir dire ou jouer du Giono à Manosque. Donc c'est devenu un fidèle. Et en plus, il est très heureux de travailler avec Claude Giraud, qu'il ne connaît pas, mais pour qui il a une très très grande admiration. Voilà.
Il y a également beaucoup d'expositions en ce moment à Manosque, Jacques. Il y en a une à la mairie, il y en a une.
Profitez-en parce que ce sont les derniers jours. Elles vont toutes se terminer ou presque avec la fin des correspondances. Donc vous avez jusqu'à la fin de la semaine, Agréoux-les-Bains, médiathèque Lucien Jacques, La jeunesse d'un roi sans divertissement, le chef-d'œuvre de Giono. Vous avez le Giono et les faits divers à la mairie de Manosque, fait avec les archives municipales. L'exposition à Notre-Dame de Romiger, le cinéma de Jean Giono, que j'avais réalisé avec le centre Jean Giono et qui est reprise là. Nous avons Gide Giono donc, au Paraïs. Et évidemment, la très belle exposition que j'ai eu le plaisir de faire avec la Fondation Carzou sur l'amitié inconnue jusqu'ici, ou très mal connue, de Jean Carzou avec Jean Giono. Et une série d'illustrations et d'ouvrages illustrés de Giono, dont des œuvres tout à fait magnifiques, qui sont présentées jusqu'au 7 octobre. Là.
Il y a aussi la rétrospective des expositions au centre Giono, qui ont été
proposées
par le centre.
Et il y a l'exposition des 20 ans de création du centre Giono.
Beaucoup
donc,
de mise en scène scénographique
voilà,
de Yannick Vigier.
Voilà, oui.
C'est à voir, à profiter. Enfin, dernier élément, et on va le saluer parce que c'est un ami de la radio, notre ami calligraphe Mérou a sévi sur les vitrines des commerces manosquins, et c'est un merveilleux calligraphe, qui a dessiné et écrit des pensées de Jean Giono.
C'était dans le programme des 20 représentants du centre régionaux. Donc,
c'est superbe.
Annick Vigier a demandé à Mérou, en effet, de sortir des phrases comme ça. Mais régionaux cisèle des phrases qui deviennent presque des maximes à un certain moment. Et si j'ai une minute, je voudrais simplement, peut-être pour finir, lire juste ce que Gide écrit de Colline, quand il découvre Colline. Il le découvre avant même que ça paraisse en volume, puisque ça vient de paraître dans une revue qui s'appelle Commerce. C'est en 1928. Voilà ce qu'écrit Gide. Colline venait de paraître en revue. Il y avait là bien plus et bien mieux qu'un simple don verbal. Une vigueur, un relief surprenant, une joie contagieuse, une sûreté de touche, de dessin, une originalité saisissante et cette sorte d'étrangeté naturelle qui toujours accompagne la sincérité lorsqu'elle échappe aux ornières de la convention. Étonne d'abord, puis bientôt triomphe de la résistance. Donc c'est un magnifique éloge, bien sûr, de Colline et de Genot écrivain. Et Gide lui écrit dans sa première lettre au mois de mars 29, il se rencontre à Paris en février, et Gide vient à Manosque en juillet 29. Entre les deux, il y a les premiers échanges de lettres, et Gide vient de lire un de Beaumugne. Et il écrit à Genot que jamais il ne trouvera de lecteur plus attentif que lui à son œuvre. Et il a vraiment eu une affection, une amitié affectueuse et surtout une admiration extraordinaire pour un écrivain qui était quasiment à l'opposé de lui. Peut-être pour ça d'ailleurs.
Et qui débutait sa carrière.
Et qui débutait sa carrière. Gide, c'était le contemporain capital, c'était le pape des lettres françaises. Et pour Giono, être adoubé et je veux dire promu dans le milieu littéraire français, qui était si différent de ce qu'il faisait, lui, Giono, et de ce qu'il était, ça a été évidemment plus qu'un coup de pouce. Je veux dire, il était immédiatement mis parmi les grands, quoi, et pas par un des grands de son temps.
L'ouvrage est en vente dans beaucoup de librairies, sur Manosque en tout cas.
Oui, et au Paraïs.
au prix de 12 euros, on va signaler la très belle composition, comme d'habitude, pour les séries de la revue Giono. Oui. Alain Bauer, notre ami typographe,
des
calligraphe.
Photos, des facsimilés, beaucoup de choses. Il y a même une lettre, un échange de lettres entre Élise Giono et Gide, complètement inédit, qu'on a mis en annexe, au moment où Gide va s'engager pour essayer de sortir Giono de prison, ou en tout cas pour faire améliorer ses conditions de détention, tandis qu'il est au Fort Saint-Nicolas en octobre-novembre 1939. Giono, dont je rappelle qu'en octobre-novembre 1939, il a été emprisonné sur ordre du gouvernement d'Aladier, prisonnier politique et pour délit d'opinion seulement. Et ça n'a jamais été dit de façon aussi catégorique. On dit toujours, c'est parce qu'il avait signé des tracts pacifistes. Non, c'est vraiment pour l'empêcher de manifester, de parler, ce qu'il n'aurait pas fait d'ailleurs. On a imaginé, compte tenu de ses engagements et de ses positions précédentes, qu'il allait faire des manifestations anti-guerre, anti-militaristes, etc., etc., au moment de la drôle de guerre. En réalité, du moment où la guerre a été déclarée, Giono a tourné le dos à toute forme d'engagement social et collectif, et il n'y avait aucun danger. Mais on l'a enfermé parce qu'il représentait un danger potentiel. D'ailleurs, il était toujours considéré comme un communiste, et les communistes ont été eux aussi enfermés sur ordre du gouvernement d'Aladier, et déporté pour certains en Algérie au moment de la drôle de guerre, hein, au début de la guerre.
Un moment très pénible dans la vie de Jean Giono, évidemment.
Très très pénible, contrairement à ce qu'il a dit, oui.
Merci beaucoup Jacques Méni d'avoir
Merci
été
François.
Mon invité, non pas dans Jean de Manosque, mais dans l'émission spéciale des correspondances.
Donc, rendez-vous prochain Jean de Manosque.
Prochain Jean de Manosque, bien évidemment. Merci encore, bonne correspondance à vous-même et continuez à faire vivre l'œuvre de Giono sur la scène manosquine.
Vous pouvez compter sur moi.
Et en France. Merci aussi à Emeline pour la régie. On se retrouve demain à 11h pour tout simplement parler correspondance. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Regina Tchondo, qui est la nouvelle présidente des correspondances. Nous allons faire un petit peu plus ample connaissance avec Regina Tchondo demain dans notre journal. Dans un instant, les infos nationales et internationales avec RFI. Merci Emeline, à bientôt.
Merci François, à bientôt.